C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de La Brouilleuse et j'ai le plaisir, ce matin d'être accompagné de monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, comment ça va?
Ça va bien. Et toi?
Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Reposer de ce petit week-end. Alors, et prêt pour la semaine.
On a pas mal de choses ce matin, je crois, à décrypter. Est-ce que tu veux commencer?
Ouais, allez, si tu veux, j'attaque. Moi, je voulais commencer par parler de Snapchat qui lance des abonnements payants. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. C'est en test, en tout cas, du côté de la plateforme aux petits fantômes. Les abonnements payants appelés Snapchat Plus sur la plateforme. Tu sais, c'est le fameux Alessandro Paluzzi, spécialiste en reverse engineering, qui allait nous chercher ça avec pas mal de détails. Alors, je trouve ça intéressant. Déjà, premier petit point sur les abonnements payants sur Snapchat, c'est que c'est vraiment... En fait, c'est un deuxième modèle économique qui naît petit à petit sur certaines plateformes. On a vu Twitter le faire. Là, il y a récemment Telegram est en train de mettre ça en place. Et puis maintenant, il y a Snapchat qui se lance aussi là-dedans. Donc, il y a deux modèles économiques, soit la publicité, soit faire payer les utilisateurs. Et là, Snapchat part clairement vers ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de plus dans les abonnements Snapchat Plus? Il y aura un badge sur votre profil pour indiquer que vous êtes un abonné. Vous pourrez accéder à des icônes Snapchat exclusifs en plus des gens qui utilisent la plateforme de manière plus classique. Vous pourrez épingler un ami dans l'application comme votre meilleur ami, votre ami numéro 1. Et vous pourrez voir l'historique de la localisation de vos amis dans les 24 dernières heures. En gros, je trouve que pour le moment, en tout cas dans ce coffre Snapchat en plus, c'est quand même un petit peu léger, je trouve, pour aller s'abonner comme ça. Après, à voir si ça déclenche des abonnements. Et en tout cas, il y a les prix aussi en face. Ça, c'est intéressant. Alessandro Paluzzi nous a carrément... Il est allé nous chercher les prix, le mec.
J'espère que c'est pas cher parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans.
Ah ouais, pour le moment. Alors, ils disent que c'est une liste non exhaustive. Il y aura peut-être d'autres choses qui se rajouteront après. Mais l'abonnement d'un mois coûterait 4,59 €. L'abonnement de 6 mois, 24,99 €. Sur un an, 45,99 € quand même. Donc, c'est quand même un petit prix d'abonnement, hein. Donc j'espère qu'il va y avoir d'autres fonctionnalités en plus, parce que sinon je trouve ça un petit peu l'age, hein.
Allez les amis, je vous emmène du côté d'Instagram. Instagram qui ajoute de nouvelles fonctionnalités de vérification de l'âge. Instagram souhaite proposer des solutions solides pour protéger ses jeunes utilisateurs. On le rappelle, hein, aujourd'hui il faut avoir minimum 13 ans pour créer un compte Instagram, mais entre 13 ans et l'âge adulte, eh bien il y a un monde et beaucoup de contenu pas du tout approprié.
Carrément.
Pour rappel, si j'ai entre 13 et 17 ans aujourd'hui sur Instagram, eh bien j'ai en quelque sorte un compte bridé, hein. Je suis par défaut en compte privé, j'ai un filtre sur les contenus sensibles et mes DM ne sont pas ouverts aux adultes.
Et je peux pas être ciblé par du publicitaire aussi.
Exactement. Donc, on le voit, il y a quand même un vrai intérêt pour les parents de jeunes d'enfants entre 13 et 17 ans effectivement créer avec eux leur compte en format.
C'est ça, faire attention à ce qu'ils déclarent leur véritable âge et qu'ils mettent pas 18 ou 19 ans, quoi.
Mais que se passe-t-il quand quelqu'un change sa date de naissance?
Aïe, aïe, aïe.
Pour Instagram, c'est le challenge prioritaire. Il ne se situe pas forcément au moment de la création du compte, parce que là, il y a papa, maman, je crée avec eux le compte, mon compte enfant, mais plutôt après, parce qu'en l'état actuel, une fois que j'ai créé mon compte, papa, maman sont plus là, je change ma date et j'ai 18 ans sur la plateforme. Voilà, aussi simple que
c'est
ça.
C'est pas si compliqué.
Et du coup, pour Instagram, l'enjeu consiste à détecter les utilisateurs mineurs au moment d'un changement de date de naissance. C'est intéressant. La principale amélioration que va proposer Instagram, elle consiste en un nouveau processus de selfie vidéo en partenariat avec une solution technique qui s'appelle Yoti. En gros, je me filme et une IA fournit des estimations basées sur l'âge d'une personne. Alors, comment ça marche? Le système Yoti, lui, il a une énorme base de données d'images de personnes du monde entier qui ont justement entre 13 et 17 ans, qui sont majeurs. Et sur cette base, eh bien, Yoti analyse la vidéo que tu envoies, leur base de données, et dit oui, non.
Okay.
Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut.
Et on sait sur quels critères se base tout ça?
Eh bien, sur l'analyse de photos et de vidéos d'autres personnes qui sont dans ces tranches d'âge.
Voilà. Okay.
Mais en plus de ça, Meta ajoute également une nouvelle fonctionnalité qui, celle-ci, est peut-être plus factuelle, plus précise. C'est une fonctionnalité de garant. Ça, c'est intéressant. Des garants pour confirmer l'âge des utilisateurs. En gros, Instagram te permet de demander à d'autres utilisateurs de confirmer ton âge.
Ouais.
Trois personnes doivent se porter garant et ils doivent avoir au moins 18 ans. Donc, intéressant quand même, trois personnes adultes qui disent oui, cette personne est passée à l'âge adulte. Hein. Et la dernière nouvelle mesure, c'est la capacité toute simple de télécharger ta pièce d'identité pour vérifier ton âge. C'est peut-être celle qui est la plus concrète, ouais, plus basique. Je scanne ma carte d'identité, etc. Pour l'instant, à préciser, hein, que ces fonctions-là, elles sont en cours de déploiement que sur les utilisateurs aux US. Mais bon, voilà, début de solution proposée par Instagram.
Et pourquoi pas directement au moment de la création du compte, en fait, si c'est une personne mineur, pourquoi pas demander le mail des parents pour le relier au compte, et en cas de demande de changement de date de naissance, un mail part directement sur le mail des parents pour dire il y a une demande de, de changement de date de naissance, est-ce que elle est réelle ou non.
Et qu'est-ce qu'on fait des enfants tu vois émancipés de 16 ans, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Adam Mosseri, si tu nous écoutes, Adjan a des idées pour toi.
On peut en parler, Adam, en tout cas, si tu as envie, on peut s'appeler lundi. TikTok aux US, voilà ce dont je voulais vous parler maintenant. Et ouais, c'est la suite de la guerre économique sino-américaine. Il y a du nouveau, on le savait, hein, TikTok avait été mis en garde très fortement par l'administration Trump, pardon, qui avait même à l'époque menacé d'interdire l'application complètement aux États-Unis. Carrément, c'était Trump qui avait menacé un TikTok. Et puis, finalement,
comme c'est le cas en Inde, l'application est toujours interdite en Inde.
Elle n'existe pas là-bas. D'ailleurs, Reels fait des très bons scores étrangement en Inde, mais du coup voilà, il y a eu un changement d'administration, il y a eu différents pourparlers entre la plateforme et les États-Unis, et TikTok s'était engagé quand même à faire la promesse de ne plus stocker les données des utilisateurs américains en Chine, mais de les stocker directement aux États-Unis. Et bah ça y est, TikTok vient d'annoncer ce 20 juin là 2022, il y a une semaine, TikTok a annoncé avoir achever la migration de toutes les données d'utilisateurs américaines vers les serveurs d'Oracle. C'est donc Oracle qui va héberger toutes les données utilisateurs américains. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis. L'objectif, c'est simple, hein, c'est d'essayer de garantir la séparation entre les données des utilisateurs américains et puis la société mère chinoise qui est en Chine. Le but pour le gouvernement américain, c'est d'éviter que TikTok puisse donner des informations au gouvernement chinois sur les citoyens américains. On rappelle d'ailleurs que les militaires américains, par exemple, ont toujours interdiction de télécharger l'application TikTok sur leur téléphone. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que les employés basés en Chine qui travaillent pour ByteDance, hein, qui est la maison mère de TikTok, est-ce que eux ont encore accès à ces données stockées aux États-Unis? Il y a eu un moment où ils avaient par exemple des serveurs de secours qui étaient, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était pas aux Philippines ou quelque chose comme ça, en tout cas Indonésie, peut-être dans ces pays-là. TikTok avait un serveur de secours là-bas au cas où. Ils ont dû enlever toutes les données des utilisateurs américains de ce serveur de données pour que ce soit seulement aux États-Unis. Donc, on va voir maintenant si ça marche. Ce que je trouve assez drôle aussi, c'est qu'en Europe, il y a des lois qui sont passées qui demandent la même chose et à TikTok et à des entreprises américaines comme Meta,
comme Google,
et qui refusent jusqu'à maintenant et qui préfèrent payer des amendes et qui sont en bras de fer avec l'Union européenne parce qu'ils ne veulent pas stocker les données des utilisateurs européens en Europe.
Vaste sujet, et je pense que dans les années à venir, on n'a pas fini d'en parler. À qui appartient les données, où est-ce
qui profite le crime,
à qui elles sont, parce que effectivement, il y a beaucoup de données malgré tout sensibles, hein. Sur un TikTok, il y a des choses qui se passent. On l'a vu récemment,
notamment
avec
par
la guerre
exemple,
en Ukraine,
notamment la localisation, tout simplement, la localisation des comptes, où est-ce que se situent les personnes qui se connectent.
Allez, je reparle d'Instagram à nouveau.
On
retourne chez Meta avec Instagram qui teste la possibilité d'ajouter des stickers en réalité augmentée dans les stories. Cool. Mais de quoi il s'agit exactement? Eh bien, je vais vous expliquer. En gros, Instagram va mettre à disposition des objets en 3D animés, intégrables directement au cœur de nos stories, en format vidéo notamment. Hein. Ça ressemble de très très près au World Lenses de Snapchat qui ont été lancés en 2017. Je vous mets, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, je vous mets en note de cet épisode un petit lien. Ce que tu peux faire, par exemple, tu peux intégrer un arc-en-ciel en 3D au cœur d'une scénette vidéo, et donc l'objet en 3D, bien évidemment, il se déplace en fonction des perspectives de la vidéo. Tu as vraiment l'impression qu'il est intégré dans la scène. C'est de la réalité augmentée. C'est plutôt très cool. Pour l'instant, c'est juste à l'état de test, mais on ne serait pas étonné que ça déboule très très vite, genre rentrée de septembre, hein, par exemple, pour l'intégralité des comptes. Pour l'instant, c'est juste on teste sur 2-3 comptes comme ça. Intéressant. Autre point, Instagram développe aujourd'hui une fonction permettant d'intégrer des œuvres NFT, là aussi en réalité augmentée, dans nos contenus.
Ah, on en avait
déjà parlé ici. Hein, Instagram qui propose aujourd'hui de pouvoir publier des œuvres numériques NFT dont on est propriétaire sur son compte Instagram. Mm-hmm. Donc la possibilité d'avoir un format de post un peu différent avec un petit effet brillant dessus et puis une petite icône qui dit bah, vous êtes propriétaire officiellement de ces NFT. Eh bien, vous allez pouvoir désormais intégrer ces œuvres NFT dont vous êtes propriétaire en réalité augmentée dans vos posts. Je m'explique. J'ai par exemple un NFT d'une œuvre graphique très cool que j'aime beaucoup. Eh bien, je vais pouvoir la coller sous forme d'un cadre. Alors pour l'instant, c'est d'un cadre dans une photo ou une vidéo de mon salon. Et dans une vidéo, c'est intéressant parce que là aussi, elle est vraiment intégrée en réalité augmentée. On a l'impression qu'elle est posée
affichée,
au mur. Et évidemment, pour l'instant, c'est un peu gadget, tout ça. Mais Instagram avance à grands pas sur ce sujet. L'objectif non dissimulé de Meta, c'est à terme de pouvoir disposer des objets 3D en NFT, en réalité augmentée, et que les fameuses stories qu'on voit aujourd'hui qui vont arriver proposées avec des filtres, des stickers en réalité augmentée, demain que potentiellement je puisse utiliser les œuvres NFT dont je suis le propriétaire, voire même pour aller plus loin, qu'il y ait des créateurs de contenu qui puissent éditer des GIFs ou des contenus en réalité augmentée, NFT, etc. etc.
Voilà. C'est un sujet intéressant parce que effectivement, on sait qu'Instagram a très envie de monter sur ce sujet-là des NFT. Cependant, on l'a vu, on a parlé même dans le Super Daily, les NFT, c'est pas forcément un sujet qui cartonne tant que ça. Et c'est un peu tendance à retomber. Il y a eu beaucoup de spéculations autour et aujourd'hui, c'est un peu plus en retrait. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt demain que ça fasse complètement partie des plateformes ? Je suis pas sûr.
Ben, là, NFT mise à part, je trouve que demain, imaginez qu'on puisse éditer, tout un chacun des créateurs de contenu puisse éditer des stickers en réalité augmentée intégrables aux vidéos, etc. C'est très intéressant parce que il y a les filtres en réalité augmentée qui ont un vrai gros succès et qui cartonnent. Mais demain, sans aller sur l'intégralité d'un filtre, avoir la possibilité d'intégrer, de mettre à disposition des objets 3D en réalité augmentée pour les gens et de développer, proposer une application comme le propose Snapchat qui permet de créer ces objets et de les mettre à disposition sur la plateforme, ça, je trouve qu'il y a un territoire génial d'exploration.
Puisqu'il nous reste un petit peu de temps, j'ai une question pour toi, Thibaut. Je suis sûr que vous avez parlé de ce chiffre la semaine dernière dans Youpi, c'est lundi, sur le fait que Instagram, la consommation qui est faite sur Instagram, les Reels aujourd'hui représentent 20% de la consommation des utilisateurs sur la plateforme. Et quand je suis tombé sur ce chiffre...
Du temps de présence,
les utilisateurs passent 20% de leur temps sur la partie Reels d'Instagram. Et du coup, je me suis dit, j'imaginais beaucoup plus. Vu le virage que prend Instagram dans la succession de TikTok et dans l'envie de passer avec un feed full vertical, vidéo, on se demande même comment la photo va encore trouver une place là-dedans. Je me demande, du coup, 20%, ça me paraît pas tant au final. 20% du temps, ça veut quand même dire que les 4/5, 80% du temps, les utilisateurs consomment autre chose que de la vidéo verticale.
Ouais, alors tu me prends de court parce que j'ai plus les chiffres, mais il faut mettre aussi en relief en face les chiffres de consommation vidéo pour l'intégralité du groupe Meta qui sont substantiels. Donc Facebook plus Instagram, donc l'usage de la vidéo, hormis le format Reel en lui-même, les fameuses bobines, l'usage de la vidéo, il est exponentiel, il est en train de tout truster. Donc c'est déjà un élément de réponse. Mais c'est vrai que le format Reel, alors il faudrait revoir quand datent ces chiffres. Je crois qu'il date d'il y a déjà un ou deux mois, à l'occasion d'une communication qu'avait fait Instagram. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'Instagram appuie fort. Ils ont besoin que ce format Reel
marche encore plus,
encore davantage et prennent encore plus de bandes passantes de temps sur la plateforme. Par contre, ce qui serait très intéressant d'avoir comme chiffre, c'est le temps vidéo passé sur Instagram en incorporant dedans la story, incorporant le reel et en incorporant les formats vidéo plus classiques. Parce qu'à mon avis, là, on aurait des surprises.
Ouais, ce serait plus impressionnant.
Et ça serait beaucoup plus impressionnant.
Ouais. Écoute, c'est un élément de réponse, effectivement, du coup. Écoutez, merci de nous avoir écoutés dans ce podcast, ce Youpi, c'est lundi, cet épisode du lundi qui vous sert dans votre veille social media. Si jamais on a laissé des news de côté, des choses dont vous auriez aimé qu'on parle, venez en parler avec nous sur les réseaux sociaux, tout simplement sur @supernatif, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Twitter, on est partout. Et puis, si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, laissez-nous une petite note, un commentaire, ça nous fait super plaisir. Sinon, vous pouvez même venir nous écouter en direct sur Twitch tous les matins à 9h.
Merci à vous tous, on vous embrasse. Allez. Et rendez-vous dès demain. Salut tout le monde.
Ciao.
Bye.